Bonsoir et bienvenue dans cet atelier-conférence sur ma démarche en tantra. J'ai à cœur de communiquer sur ma démarche parce que c'est ce qui sous-tend les groupes. C'est quelque chose qui peut vous aider à comprendre pourquoi j'organise des groupes et pourquoi le tantra est important pour moi et pourquoi le tantra peut se révéler important pour vous. Alors au niveau pratique, ce que je dis ce soir n'est pas une vérité. Moi je n'énonce pas des vérités, c'est ma vision du tantra, c'est juste ma vision. Donc vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec cette vision, ça ne pose pas de problème en particulier. C'est informel, ça veut dire que vous pouvez poser une question en plein milieu ou demander une clarification si quelque chose n'est pas clair. S'il y a un terme qui n'est pas clair, demandez-le parce que peut-être que sa compréhension est importante pour le reste des choses. Alors, en une phrase, le tantra, c'est une voie authentique de libération de l'esprit conditionné qui n'aborde pas avec complaisance les limitations de l'esprit, mais suggère en douceur de reprendre votre vrai pouvoir que pour des raisons diverses vous avez pu abandonner. Elle est un peu longue cette phrase, je le consens. Mais vous pouvez retenir que la première partie, c'est une voie authentique de libération de l'esprit conditionné. Nous avons tous un esprit conditionné. Si nous étions libres, ça se saurait. Si nous étions complètement libres, il n'y aurait pas de groupe de tantra. Le tantra essaie de vous ramener à votre liberté, à votre nature. Moi, je connais trois définitions encore plus courtes du tantra. C'est soyez détendu et naturel. Si vous êtes détendu et naturel, vous êtes à 100% dans le tantra. Un bébé est tantrique à 100%, parce que lui, il n'est pas encore trop conditionné. La deuxième phrase, c'est « soyez tel quel ». Tel quel, c'est aussi une bonne définition du tantra. Je ne modifie rien à ce que je suis. Si je suis en colère, je suis en colère. Si je suis joyeux, je suis joyeux. Je ne retiens pas, je ne me limite pas par rapport à mes émotions, à mes ressentis. Et la troisième, c'est « le tantra utilise le « deux » pour se rappeler qu'il n'y a pas d'eux. Bon, celle-là, elle est un peu plus compliquée à comprendre. Parce que le tantra, c'est une voie non-duelle qui essaye d'unir en vous le féminin et le masculin et de vous rappeler que nous sommes tous un, nous sommes dans une unité. C'est pour ça que c'est une voie spirituelle. Donc le tantra utilise quand même le deux. Il utilise l'homme et la femme dans le but que quelque chose, à un moment donné, fusionne et qu'on retrouve l'unité entre le yin et le yang. Il y a cette unité-là qui se révèle. Tout à l'heure, on parlait hors micro de la voie du couple tantrique. Voilà, un couple qui chemine dans la voie spirituelle essaye d'unir ses énergies yin et ses énergies yang pour, en quelque sorte, fusionner dans un être complet au niveau spirituel. Il peut y avoir bien d'autres définitions du tantra. En vérité, il y en a certainement autant que d'animateurs. C'est comme un arc-en-ciel. Choisissez votre couleur. Alors, si on parle de couleur, je connais deux formes principales de tantra. Le tantra blanc, que je ne fais pas beaucoup pratiquer. Le tantra blanc, c'est une voie méditative. C'est un axe qui va du haut vers le bas, c'est-à-dire que grâce à la méditation, je reçois les énergies cosmiques par le crâne, par la couronne, et je les laisse diffuser dans le corps pour atteindre l'illumination. Et le tantra rouge, qui est plutôt la voie que j'enseigne, parce que je suis un peu tombé dedans, comme Obélix est tombé dans la potion magique. Donc j'ai un moment donné, j'ai pas eu le choix, parce que ça s'est imposé à moi. C'est une voie corporelle qui essaye d'unir corps, cœur et conscience. Donc c'est une voie ascensionnelle. On part du bas, du corps, du premier chakra, et on essaie de faire monter l'énergie au cœur et on essaie de faire monter l'énergie dans les chakras du haut. Alors c'est aussi une voie qui essaye que vous deveniez meilleur de jour en jour, en mettant toujours plus de conscience, de sacré et d'écoute sur vous-même, sur l'autre, dans les actes de la vie et dans les relations. Alors, conscience et sacré, c'est des mots que je vais employer souvent. Je dis tout de suite que sacré n'a rien de religieux. Ce n'est pas une notion religieuse dans ce contexte. C'est quelque chose qui a une valeur élevée. Quand je mets du sacré sur un acte, alors je pose une valeur élevée sur cet acte. Quand je mets du sacré sur ma parole, alors j'ai de l'authenticité dans ma parole. Il y a beaucoup de façons de mettre du sacré. Et lorsque vous mettez du sacré, vous mettez aussi une couche de conscience. Et lorsque vous mettez de la conscience, vous mettez aussi une couche de sacré. C'est des choses qui sont reliées. Alors cette voie non-duelle, elle date de 10 000 ans environ. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord. Il y a 10 000 ans, il y a eu des écoles tantriques qui ont commencé à créer des exercices. Ils les appelaient des préceptes ou des méditations. Au fur et à mesure des années, il y en a eu 112. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a encore 112. Au bout de 5000 ans, les premières écoles tantriques ont commencé à mettre par écrit l'enseignement qui n'était diffusé que de maître à disciple, et le disciple devenant maître enseignait à leur tour. Mais il n'y a pas eu d'enseignement écrit pendant 5000 ans. Imaginez-vous, pendant 5000 ans, aucun écrit. Tout se faisait par transmission orale. Et puis le tantra a été beaucoup jugé, et donc ça se faisait en cachette. C'était des écoles secrète. Donc 5000 ans plus tard, les premières écoles ont commencé à synthétiser les méditations et puis ça a donné un texte qui s'appelle Vijnana Bhairava Tantra. Je vais vous montrer. Voilà, 112 préceptes qui sont là sur 3 pages A4 recto verso. Fruit de 5 ou 10 000 ans de pratique continue, d'expansion de conscience et de recherche sur les pensées, le mental, la respiration, les sens, sur tout ce qui concerne l'être humain et comment il peut devenir plus conscient. Vijnana Bhairava Tantra, ça veut dire textuellement technique d'expansion de la conscience. Tout ce qui se trouve là-dedans sert à faire grandir la conscience. C'est aussi l'axe que moi j'ai choisi. Je l'appelle Tantra Conscience dans mes papiers, là, dans ma plaquette d'activité. Parce que c'est au cœur du Tantra, la conscience. Alors, c'est un Tantra qui est pratiqué dans les 112 préceptes, qui est pratiqué souvent en individuel. C'est des méditations individuelles. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément facile à appliquer. De temps en temps, je fais pratiquer une des 112 méditations de ce texte en l'adaptant. Voilà. Alors je peux vous lire la première des 112 méditations, qui est quand même assez forte. Elle parle de respiration. La suprême Shakti se manifeste lorsque le souffle inspiré et le souffle expiré naissent et s'éteignent aux deux points situés en haut et en bas. Ainsi, entre deux respirations, fait l'expérience de l'espace infini. Alors, l'expérience de l'espace infini, c'est l'expansion totale de la conscience, qu'on appelle l'illumination. Alors, ce n'est pas facile à comprendre, hein. Ce que ce texte dit, c'est que quand on inspire, il y a un moment où l'air s'arrête, où l'air n'entre plus dans les poumons. Juste avant que l'air ne ressorte, il y a un petit moment de pause. Dans ce moment-là, en haut, et dans l'autre moment en bas, qui est la symétrique, c'est-à-dire au moment où j'ai fini d'expirer, il y a un tout petit moment infinitésimal où l'air ne circule plus avant que je reprenne l'inspire. Si je place ma conscience en haut et en bas en ne faisant que ça, j'ouvre une porte pour aller vers l'expansion totale de ma conscience. On n'y pense pas, hein ? On le fait des milliers de fois par jour et il n'y a pas de conscience sur ces deux moments-là. Les tantricas de l'époque ont trouvé que c'était une porte vers l'expansion de la conscience. Donc si vous voulez essayer, vous faites ça pendant une heure. Hein. Je place ma conscience au moment où l'air s'immobilise dans mes poumons. Hein, comme une bascule. Ça monte, ça bascule, ça redescend, ça bascule. Je place ma conscience sur la bascule. Vous verrez. Hein, peut-être que ce sera... Alors il est dit que un des 112 préceptes est pour vous. Vous ne savez pas d'avance lequel, parce que nous sommes tous différents. Comment le trouver ? En pratiquant. Hein, en pratiquant, et puis en voyant si ça donne des résultats. Je pratique une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Si je sens qu'il y a quelque chose d'immense qui est là, je continue. S'il n'y a rien de particulier, j'en choisis un autre qui me parle. Voilà, alors c'est tout ce que je dirais sur ce texte. Je ne vous suggère pas de commencer à pratiquer avant de connaître un peu le tantra, parce que ça peut être un peu ardu au début. Hein, mais si vous vous engagez dans la voie du tantra plus profondément, alors ça peut être quelque chose que vous faites chez vous en parallèle.
Une question rapide. Oui. Est-ce que le tantra aujourd'hui est une secte en France ?
Est-ce que le tantra est une secte en France ? Non, le tantra n'est pas une secte. Le maître tantrique qui s'appelait Osho, qui est décédé depuis, a été à une certaine époque catégorisé dans les sectes, et puis ensuite ça a été retiré. Hein, donc il n'y a plus de connotation de secte par rapport au tantra. Et puis la notion de secte est très relative. Hein, on peut dire que le christianisme, c'est une secte qui a réussi. Hein. Et puis il y a des sectes qui sont tout à fait correctes. Ce n'est pas forcément lié au pouvoir. Ça répond à ta question ?
Avant Osho, il y avait des ashrams. Comment ça se passait ? Qu'est-ce qui a fait aussi que tout d'un coup ça a été écrit, alors qu'avant c'était simplement les nouveaux orales, enfin, des préceptes ?
Oui, je répète la question pour le micro. Avant Osho, il y avait des ashrams. Qu'est-ce qui fait que... les préceptes et les formations orales sont devenues par écrit. Je pense que je n'ai pas la réponse, hein, mais personnellement, je pense que les tantricas voulaient diffuser ça au plus grand nombre pour que l'humanité en profite. Hein, ce n'était pas réservé à eux seuls, à eux-mêmes. Voilà, cela dit, il y a peu de manières de savoir réellement ce qui s'est passé. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'histoire écrite à ce propos. Ok. Alors le tantra met l'accent sur l'origine de notre nature qui est pure et non conditionnée, mais qui est d'une certaine manière obscurcie par les conditionnements et les peurs. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose dans le tantra. Moi, je ne vous apprendrai jamais rien. Par contre, il s'agit de désapprendre des choses. Parce que l'essentiel, vous l'avez déjà, il masque le reste. Hein? Non, pardon. Les peurs et les conditionnements masquent l'essentiel, ce qui fait que ce qui est pur et non conditionné en vous, vous pouvez ne pas le voir parce qu'il y a une sorte de brouillard de peur par-dessus. Donc nous n'avons rien perdu depuis notre nature, c'est la partie divine de nous-mêmes, hein, l'aspect divin de nous-mêmes, nous ne l'avons pas perdu, mais les peurs et les conditionnements cachent cette nature. Donc lorsque je libère des peurs et des conditionnements, je gagne en liberté. je suis toujours plus conscient, toujours plus libre. Et c'est là que ma nature se révèle davantage. C'est là que mon bonheur qui est à l'intérieur se révèle davantage. Le tantra a énormément d'implications sur la vie de tous les jours, parce que le niveau de conscience, votre vie est le reflet de votre niveau de conscience. Si vous avez un niveau de conscience qui est bas, alors votre vie sera empreinte de violence, de protection, de limites, et vous n'aurez pas beaucoup de bonheur à l'intérieur, parce que vous passez beaucoup de temps à vous protéger, à réagir, ce qui peut amener de la violence. Quand votre niveau de conscience commence à grandir, alors vous commencez à trouver plus de bonheur à l'intérieur de vous. Vous avez moins besoin des autres pour être heureux. Vous avez moins de dépendance, vous avez moins de jugement vers les autres. Il y a un certain apaisement qui vient dedans. Et puis c'est comme une boucle, une spirale positive, hein, parce que vous pouvez rapidement trouver le travail qui vous correspond le mieux, parce que vous êtes apaisé en vous-même, vous voyez plus clair, vous ne jugez plus les autres, et puis vous trouvez beaucoup plus facilement un compagnon ou une compagne, parce que la conscience amène la liberté, la conscience amène l'amour. C'est facile, quand on est libre et aimant, de trouver quelqu'un qui nous correspond. Donc, le tantra, ce n'est pas juste 3 heures le jeudi de 19h30 à 22h30. Hein. Le but, c'est que ça soit dans votre vie, hein, que vous puissiez le faire fructifier dans votre vie, qu'il puisse changer les aspects limités de votre vie. De temps en temps, je fais 30 secondes de pause pour moi, pour retrouver mes idées, et puis pour vous, si vous avez une question à poser pendant ces 30 secondes. D'accord ? Juste pour pas trop vous saouler non plus. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Donc, comme je l'ai dit, le tantra a pour objet l'expansion de la conscience, c'est son seul but. Hein. Les moyens sont nombreux, mais le but est unique. Hein. Il y a des personnes qui disent le chemin d'expansion de la conscience, c'est comme une montagne. Nous sommes tous au pied de la montagne, et il y a plein de sentiers différents pour aller au sommet. Mais au sommet, il n'y a qu'un seul sommet. Nous sommes tous un à ce sommet-là. C'est pour ça que les voies de développement personnel sont très, très nombreuses, mais que le but visé, il est unique, hein, c'est trouver, se trouver soi-même, trouver sa nature, célébrer sa nature, voilà.
Moi je trouve que c'est un chemin difficile.
Oui, 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 c'est un chemin difficile, oui.
J'ai une question.
Oui.
Pourquoi il est dit que le tantra c'est une voie d'expansion rapide de la conscience, et c'est rapide pour atteindre ce qu'on veut vraiment ? Pourquoi c'est rapide ?
Pourquoi c'est rapide? Ça, c'est mon opinion. Hein. Ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit dans un livre. C'est rapide parce que le tantra est radical. Le tantra te place en face de toi-même. Donc après, tu peux regarder ou fuir. Hein. Mais il va te donner des occasions de te voir toi-même grâce à l'autre. Hein. L'autre, c'est le ou la partenaire avec qui tu as fait l'exercice. Voilà. Et puis dans le tantra, il y a toute une série de choses qui font que nous essayons d'être le plus vrai possible. Alors quand on est vrai, l'expansion de conscience, le développement personnel va très vite. Hein. Quand on cache des choses, quand on ne dit pas ce qu'on pense, quand on n'est pas authentique, ben on a ça à régler, parce que la vie ne peut pas se faire correctement avec une énergie qui est retenue. Hein. L'énergie, elle doit circuler. Ça répond à la question ? Donc la démarche du tantra a tendance à considérer que tout est sacré, hein, que la conscience rajoute une couche de sacré sur chaque chose, chaque situation, chaque être qu'elle accompagne. Il y a des choses qui peuvent être entre guillemets profanes, c'est-à-dire anodines, sans valeur, pas considérées comme précieuses ou importantes, et d'autres choses qui sont considérées comme sacrées. Osho disait, j'aime bien cette phrase, soit dans l'univers, aucun atome n'est sacré, ou soit tous les atomes sont sacrés. Il n'y a pas quelque chose entre les deux, d'après Osho, bien sûr. Donc, s'il y a de la conscience sur le moindre atome, alors tout l'univers est sacré, parce que tout l'univers fonctionne avec cette conscience. Sinon, tout l'univers est profane. Alors moi, je dirais plutôt que l'univers est sacré. Mais, alors, quelques exemples de conscience. Un son que vous écoutez en conscience devient sacré parce qu'il ouvre un espace de méditation à l'intérieur. Si vous écoutez un gong, sans rien faire d'autre en même temps, les 15 secondes d'écoute deviennent un moment important pour vous parce que c'est là que vous vous intériorisez, c'est là que vous trouvez l'espace de 15 secondes, un moment qui est pur, qui est vrai pour vous. Une situation où il y a beaucoup de respect et d'écoute devient sacrée. Par exemple, une conversation basée sur la communication non violente. Ça veut dire... je laisse parler l'autre jusqu'au bout sans jamais l'interrompre. Il va jusqu'au bout de ce qu'il ou elle a à dire et après moi je parle. Donc il y a une écoute forcée, hein, puisque je n'interromps pas l'autre. Cette conversation devient sacrée parce que l'autre a la garantie que je l'écoute. Hein. Sa parole a une valeur, a une importance. Troisième exemple, un être regardé avec écoute et bienveillance est vu comme sacré. Par exemple, l'union tantrique fait appel, l'union sexuelle, hein, fait appel à une écoute permanente de l'autre, ce qui rend la sexualité sacrée. Hein, la sexualité peut être animale, bestiale, peut être dans l'abus de l'autre, dans la non-écoute, dans je prends. Où la sexualité peut être sacrée parce qu'il y a une écoute de chaque instant et qu'il n'y a jamais rien qui est forcé. Donc, le point commun entre ces trois choses, c'est la conscience. Hein, si je mets la conscience sur une chose, sur un son, si je mets la conscience sur une conversation, si je mets la conscience sur une union sexuelle, elles deviennent importantes, elles deviennent sacrées. Et puis moi j'aime bien cette phrase, la beauté est dans les yeux de celui ou celle qui regarde. La beauté n'est pas dans la fleur. Hein. Une personne va aimer cette fleur, une autre personne ne va même pas la regarder. Hein. Et la beauté sera dans les yeux de la personne qui aime la fleur. Voilà, et puis Krishnamurti disait aussi à propos de la rose, que l'on soit proche ou loin de la rose, cela lui importe peu. Car elle est pleine de son parfum et le diffuse à tout le monde. Voilà, ça parle aussi de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le tantra? C'est un scoop, hein, je vous l'apprends maintenant. On n'apprend rien, hein, je vous l'ai déjà dit, je peux le répéter. Il n'y a aucune leçon à retenir, on n'apprend rien. Par contre, on peut désapprendre des choses qui ne nous servent plus à rien, parce que nous avons grandi en conscience, parce que nous avons envie d'être plus vrai, plus naturel, plus détendu. Et le tantra vous proposera, celui que j'enseigne, des occasions, des perches pour être plus détendu et plus naturel. Parce qu'on va tous, dans un groupe de tantra, jouer la même règle du jeu. Ne pas se juger, être à l'écoute de l'autre, respecter l'autre, se respecter soi-même. Je reviendrai sur le cadre, mais comme on joue tous la même règle du jeu, alors c'est plus facile d'être naturel. Hein, c'est plus facile, quand on n'est pas jugé, de dépasser un peu ses limites. Hein, c'est-à-dire, chaque fois qu'une limite est dépassée, une liberté additionnelle est trouvée. Hein. Le tantra travaille beaucoup sur la zone qui est derrière les limites, parce que c'est là qu'il y a de la liberté en plus. Hein. Avant la limite, c'est une zone que je connais, donc je ne vais pas grandir en liberté avant ma limite, c'est plutôt après ma limite que ça se fait. Donc on désapprend beaucoup de choses inutiles, les peurs ne sont pas utile pour nous, sauf la peur du lion quand vous détalez avec l'adrénaline, là elle est très utile. Hein. Mais dans nos vies tous les jours, il n'y a pas beaucoup de lions, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'utiliser la peur de manière utile. Voilà, donc quand vous désapprenez des choses inutiles, la conscience grandit parce qu'il y a de l'espace qui est libéré. Hein. La peur occupe un espace, hein, la peur s'est tendue. Hein, et quand vous détendez, bah, toute l'énergie qui était mobilisée par la peur redevient disponible. Donc, venez désapprendre, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses à désapprendre. Il y a beaucoup de conditionnements. Nous en avons des milliers dans notre esprit. Il y en a qui sont plus poignants que d'autres. Il y en a qui sont plus limitants que d'autres. Il y en a qui sont utiles, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Par exemple, si vous voyez le feu passer au rouge, arrêtez-vous, ça c'est utile, si vous voulez rester en vie. Donc, mais notre esprit a tendance à se conditionner, à répéter les choses qu'on lui a apprises, même si ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'on m'a beaucoup répété une chose, au bout d'un certain nombre de répétitions, ça devient une vérité pour moi. J'en fais une vérité, mais ce n'en est pas une absolue. C'est une vérité relative. Voilà, donc le tantra nous aide à nous centrer sur nos désirs profonds sans être complaisants avec nos conditionnements. Nous voyons les conditionnements et voir quelque chose, c'est la première étape pour le transformer. Si je ne vois pas un conditionnement, je suis l'objet de ce conditionnement, je ne pourrai jamais le transformer. Donc la conscience, c'est celle qui voit pour transformer. Je vois que j'ai peur de prendre la parole en public, hein. Alors c'est en le voyant et en faisant des choses un peu audacieuses avec ça que je le transforme. Mais si je ne le vois pas, je vais passer ma vie dans l'inconscient de ce conditionnement. Voilà donc une phrase qui revient souvent dans le tantra, c'est « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce que je veux par moi-même, mais qu'on ne m'a pas forcément appris, hein? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me caractérise, hein? Qu'est-ce que j'aime, hein? Quels sont mes désirs, quelle sorte de relation j'ai envie avec les autres, quelle sorte de liberté, quelle sorte d'amour j'ai envie de répandre sur la terre.
Quel est mon besoin aussi?
Quel est mon besoin? Oui, 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 c'est de la même nature. Alors, dans le tantra, la plupart du temps, nous faisons des exercices que moi j'appelle simples et puissants pour retrouver le vrai contact humain. Parce que le vrai contact humain, il est souvent superficiel dans un monde conditionné. Vous voyez une personne sur le trottoir, si vous avez le malheur de regarder plus de 3 secondes cette personne dans les yeux, ça peut être considéré comme menaçant. Alors que deux personnes qui sont détendues, peuvent se regarder dans les yeux 10 minutes et y trouver beaucoup de plaisir, hein, et beaucoup de communication. Et on fait ça dans le tantra. On se regarde dans les yeux pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour trouver, pour désapprendre qu'un regard, ça peut blesser. Hein, trouver la bienveillance dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est simple et puissant parce que ce n'est pas les exercices compliqués qui font le désapprentissage. Hein, c'est revenir plutôt à des choses simples. Voilà, que faut-il attendre du tantra dans la vie de tous les jours? J'en ai déjà parlé un petit peu. Pour moi, il faut environ 6 mois à 1 an de pratique régulière en tantra ou en méditation active, qui est une branche du tantra, pour déconditionner l'esprit de façon à ce que le regard sur le monde extérieur commence à changer de façon concrète, et aussi le regard sur moi-même, bien sûr. Donc, que faut-il attendre? Plus d'écoute, plus de présence à moi, à l'autre, beaucoup moins de jugement, moins de violence, c'est quasiment la disparition de la violence, des amis ou des partenaires amoureux qui me conviennent davantage, un travail nourrissant pour mon être profond, plus d'amour à donner à moi-même et aux autres. Ça, c'est quelques-uns des changements que vous pouvez attendre lorsque votre conscience grandit. Naturellement, il y a moins de peur, et quand il y a moins de peur, il y a beaucoup plus d'énergie. Quelqu'un disait, il faut beaucoup plus d'énergie pour serrer le poing que pour tendre la main. Alors, regardez, là, il n'y a aucun effort, je tends la main, Mais si je serre, ça mobilise beaucoup de muscles. Hein, c'est pareil pour faire la grimace, il faut beaucoup d'énergie, mais pour sourire, très peu. Ça, c'est dans la même... Voilà, et je rajoute, etc. Que pouvez-vous attendre dans votre vie, tout ça, mais etc. Parce que les bienfaits d'une conscience grandissante sont sans nombre. Hein, ils sont infinis. Parce que cette conscience grandissante vous amènera un jour ou l'autre à votre vraie nature. On ne sait pas le temps que ça prend, mais c'est une sorte de spirale ascendante qui va vers un sommet d'unité. Alors, je vous parle un peu de moi. Mon parcours, la formation que j'ai faite, c'est aucune formation. C'est clair, mon CV est très court. Cependant, il y a 20 ans, j'ai fait une expérience tantrique, initiatique. C'était lors de mon premier groupe de tantra, près de Lyon, et lors du premier exercice de ce premier groupe, où on m'a demandé de choisir une femme pour faire l'exercice. Je suis allé demander à une femme, elle m'a dit non. Alors je suis allé en voir une autre, et elle m'a dit oui. Et donc j'ai fait l'exercice avec cette deuxième femme. Peu de temps après, il y a quelque chose qui a basculé en moi, qui a dit « à vie, tu es libre ». Le non n'a pas été une catastrophe, alors qu'avant, j'étais super dépendant du bon vouloir des autres, du sourire des autres, de l'amour des autres, etc. Ce oui-là, je l'ai, entre guillemets, encaissé facilement, et je ne l'ai pas pris de manière personnelle. Donc, il y a eu « à vie, tu es libre, à vie, tu es libre ». Et puis, c'était comme une cassette qui tournait en boucle, en répétition. Et puis encore un peu après, j'ai eu toute l'énergie féminine qui est arrivée en cascade à l'intérieur de moi. Du jour au lendemain, j'ai commencé à aimer la musique classique, l'architecture. Mon être s'est enrichi, mais à 50% d'une énergie qui était inconnue jusqu'alors. J'étais informaticien. Pour moi, c'était oui ou non, mais entre le oui et non, il n'y avait rien. Et j'ai appris qu'après, que dans l'énergie féminine, il y a entre le oui et le non une infinité de peut-être. Toutes les femmes vous le diront. Et donc, j'ai commencé à être beaucoup plus sensible, beaucoup plus à l'écoute. Et puis, voilà, j'étais venu à ce stage avec une question, comment séduire les femmes? Parce que c'était un vrai mystère pour moi, je n'étais pas commercial pour un sou. Et pour moi, je n'avais aucune idée de comment il fallait faire pour entrer en relation avec une femme, la séduire. Alors la chose étrange, c'est qu'à la fin du stage, je n'avais pas de réponse à cette question, mais que je n'avais plus la question. La question ne se posait plus. J'avais rien à faire pour séduire les femmes, j'avais juste à être moi-même, libre et puis détendu. Et là, ma vie amoureuse a commencé à prendre un autre tournant. Donc, après cette expérience initiatique, j'ai tout de suite eu envie d'enseigner. Je me suis dit que l'univers m'avait donné un aperçu d'éveil. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand l'énergie intérieure se déploie? C'est vraiment ça que j'ai vécu. J'ai vécu 3 mois d'une extase avec un bonheur, une félicité incroyable. J'avais une assurance alors que j'étais hyper timide avant. Donc, voilà. J'ai organisé des groupes parce que j'ai vécu le tantra, entre guillemets, de l'intérieur. J'ai vécu une expansion. Après 2 ans, j'ai souhaité vérifier si ce que j'enseignais, c'était vraiment du tantra. Et donc, j'ai fait une formation avec Sudhir Roche, qui a disparu depuis, qui est passé sur un autre plan de conscience. Donc... je n'ai rien appris de particulier en plus dans cette... Mais c'était très bien, mais je n'ai rien appris d'autre que ce que j'enseignais. Et donc, ça m'a conforté dans le fait que c'était bien du tantra, ce que j'enseignais.
Tu as toujours fonctionné avec des tarifs en conscience, tarifs libres?
Non, le tarif libre, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'applique, maximum. La petite histoire, rapidement, c'est que je suis allé dans un festival avec 15 000 personnes dans le sud de la France, près de Nîmes. Ça s'appelait Rêve de Convergence ou quelque chose comme ça. où toutes les activités et tous les restaurants étaient en tarif libre et conscient. Certains jouaient le jeu, certains non. Mais je me suis dit, waouh, quelle confiance il faut avoir pour faire ça. Je vais faire confiance et essayer. Et dès que j'ai commencé, j'ai eu des groupes de 20 personnes directement. Sur une longue période. Et donc, ça m'a encouragé sur le fait que il n'y a pas besoin de gagner tant pour faire du tantra, il n'y a pas besoin d'être dans une élite, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'avoir envie de faire du tantra. Et j'ai ouvert à tous sans condition de ressources. Alors, ce n'est pas une voie facile. Il faut de la confiance. Et puis, voilà, il y a parfois des choses qui ne se font pas. Hein. Il y a des groupes qui ne se font pas, des groupes que j'annule ou des groupes qui ont des rentrées d'argent moins importantes que prévu. Des gens qui jouent le jeu, des gens qui ne jouent pas le jeu. Mais globalement, dès le début, j'ai gagné plus d'argent en faisant comme ça qu'en faisant du tarif fixe. Parce que le tarif fixe excluait de facto certaines personnes. Alors que le nombre, avec un tarif qui était variable, amenait en fait plus de ressources dans la boîte.
C'est pas facile la question d'argent dans une voie spirituelle et de d'évolution.
C'est une question. Moi, je considère, mais on sort un peu du cadre du tantra, mais que l'argent est une conséquence de l'énergie que je mets dans ma vie et non pas un but. Hein. Si je mets de l'énergie et que c'est fluide dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, l'univers va me renvoyer les moyens de continuer ça. Mais ça, c'est plus une vision spirituelle de l'existence. Et puis l'argent, c'est le prolongement de mon énergie. Mais on sort un peu du cadre du tantra, donc je ne vais pas développer. Hein. Je pourrais développer hors micro. Alors, ensuite, pourquoi dans le tantra, un cadre est-il nécessaire? Je dirais même qu'un cadre est indispensable. S'il n'y a pas de cadre, le groupe ne tient pas 5 minutes. Hein. Au bout de 5 minutes, ça part dans tous les sens, parce que tout est possible et tout est permis, alors que parfois, il y a besoin d'écoute pour écouter que l'autre est limité, que l'autre ne peut pas aller aussi vite que moi, etc. Hein, j'ai besoin de règles. Donc moi, je pose un cadre dans tous mes groupes de tantra. Parfois, le cadre extérieur n'est pas suffisant. Il y a aussi besoin d'un cadre intérieur et ça s'appelle une charte. Et ce soir, je vais vous parler d'une nouvelle charte que j'ai installée parce que besoin aussi de solliciter les personnes à l'intérieur, hein, pour qu'elles se respectent elles-mêmes dans quelque chose qui est invisible pour moi. Hein, et donc, c'est ça la charte. Alors, le cadre de mes groupes de tantra, c'est respect de soi, respect de l'autre. Je peux dire oui, je peux dire non tout le temps, je peux dire stop. Non-jugement absolu, donc je ne juge pas les gens pour ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, parce que chacun a une voie d'expression différente. Absence d'enjeu personnel sur l'autre, ce n'est pas des groupes de rencontres, ce n'est pas des groupes pour trouver un partenaire de vie ou sexuel ou je ne sais quoi d'autre. C'est un enjeu personnel sur soi-même, hein, le tantra. Pas de passage à l'acte, donc on n'essaye pas d'aboutir à quoi que ce soit. Le tantra explore le chemin, mais pas la destination. Certains disent le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Hein. C'est pareil, dans le tantra on explore le chemin et il n'y a pas d'aboutissement à quoi que ce soit. La route du bonheur, la route de la conscience, elle est infinie, on n'y arrive jamais. Hein. Et en même temps elle s'accroît toujours, donc c'est un peu paradoxal. Donc pas de passage à l'acte, ni dans la sexualité, ni dans la violence. On explore l'énergie, mais pas l'acte, hein, ni dans la violence, ni dans la sexualité. Cela dit, les couples peuvent pratiquer ça dans leur intimité, c'est pas du tout jugé, hein, c'est juste qu'on ne le fait pas dans les groupes parce que ça n'a pas lieu d'être. Sixième règle qui s'applique aux couples uniquement. Les couples peuvent pratiquer entre eux dans les groupes ou s'ouvrir au groupe après concertation. Donc, ils peuvent choisir de développer l'intimité du couple entre eux et c'est parfaitement juste. Et ils peuvent choisir de développer la liberté individuelle en se séparant et c'est parfaitement juste aussi. Donc, c'est à eux de décider quelle voie ils explorent à ce moment-là. Voilà, c'est les seules règles que je pose, mais c'est moi qui suis le gardien des règles, sauf pour la confidentialité. Les personnes à l'extérieur du groupe choisissent, s'engagent à ne pas divulguer ce qu'une personne a fait, ce qu'une personne a dit. Hein. Mais ça s'adresse aux autres, hein. C'est pas ce que moi j'ai dit ou ce que moi j'ai fait, parce que ça c'est mon intimité, je suis libre de la partager. Mais je ne peux pas citer l'expérience d'un autre ou d'une autre, parce que c'est intime, et donc l'intime ne se dévoile pas. C'est la seule raison pour laquelle c'est confidentiel, et pour laquelle je peux me livrer davantage, être authentique, parce que je sais que ça ne sera pas, ce secret-là ne sera pas brisé. Je vais plus loin quand je sais que ce que j'ai dit est la propriété du groupe. 30 secondes de respiration. Alors, dans le tantra que je propose, il y a des exercices et des structures, des façons de faire. Donc déjà, je propose trois niveaux de progressivité. Le tantra découverte, qui est niveau 1, qui n'est où il n'y a pas du tout l'exploration de l'énergie sexuelle. Hein, donc c'est très peu impliquant. Il y a une petite implication psychologique. Le tantra exploration, où on aborde un peu l'énergie sexuelle, hein, mais pas de manière approfondie. Qui demande un peu plus d'expérience, et un peu plus d'aisance, et un peu plus de liberté, un peu plus de conscience développée. Hein. Donc ça, c'est chacun est juge pour dire, je me sens bien maintenant comme un poisson dans l'eau, dans la découverte, j'ai envie de faire un pas de plus, et j'ai envie d'aller voir le niveau exploration. Et le dernier niveau, c'est approfondissement. Ça demande 6 mois à 1 an d'expérience tantrique, et puis on va plus loin, on explore des choses dans l'énergie sexuelle qui sont plus impliquantes. Mais voilà, j'en parlerai un peu plus tard, c'est quand même très cadré, hein, même si on va loin. Plus on va loin, plus le cadre a besoin d'être important. Hein, donc c'est très cadré. Pour l'instant, je propose 6 types de groupes différents. Alors, il y a quelque chose que j'ai introduit il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle « Danse et jeux tantriques de 5 à 7 ». C'est ce que j'appelle le niveau 0. Hein. C'est plus des jeux inspirés du tantra qui ressemblent au bal tantrique que du tantra. Donc ça ne demande aucune expérience. J'ai réintroduit 3 ateliers comme ça cette saison. Hein. Il y aura un dans ces jeux tantriques de 7 à 9 aussi. Parce que voilà, c'est plus accessible pour certaines personnes. Après, il y a toujours niveau 0, c'est le bal tantrique. Il y en a 2 ou 3 par an. Il y en a un grand en fin décembre, le 31, où il y a 60 de personnes. Et après, il y en a au printemps et à l'été. C'est toujours en fonction des saisons. Hein. C'est hiver, printemps, été. De temps en temps, il y en a en automne, mais pas régulièrement. Ensuite, il y a la soirée tantra. Comme niveau de, comme structure de pratique, comme durée de pratique, ça dure en général 3 ou 4 heures. Après, il y a l'après-midi de tantra qui dure 5 heures en général, 14 heures, 19 heures. Après, il y a la journée complète qui est de 10 heures à 19 heures avec un repas pris en commun et des pauses. Et après, il y a le week-end complet, où c'est résidentiel, ça se passe ici, les gens dorment sur des matelas au sol ou dans les chambres là-haut, Donc plus il y a de temps, plus c'est impliquant. Et donc le week-end, c'est seulement approfondissement. Hein. Il faut avoir passé du temps dans les autres niveaux. Il y a des soirées découvertes, il y a des soirées exploration. Il y a des après-midi découvertes, exploration et approfondissement. Les journées sont approfondissement en général et les week-ends sont approfondissement. Donc plus c'est long et plus le niveau est important. Plus il y a de temps et plus l'implication, le niveau d'implication grandit. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces structures-là ? Il y a beaucoup de danse, on commence toujours par danser parce que le corps ne réfléchit pas pendant la danse, donc ça peut libérer le mental. On peut faire des exercices seuls, à deux, en sous-groupe d'hommes et de femmes, en grand groupe, les yeux bandés ou les yeux ouverts. Il y a beaucoup de choses différentes. On utilise la respiration, la méditation, des pratiques énergétiques, des pratiques sensorielles, des partages de paroles et de témoignages intimes, le sens de la célébration et de la fête. On peut faire tout ça dans n'importe quel ordre. Moi, j'ai une soixantaine d'exercices différents et chaque fois, c'est différent. Il y a moins de diversité dans les groupes de découverte et un peu plus dans les groupes d'exploration et beaucoup plus dans les groupes d'approfondissement. Parce que dans la découverte, voilà, pour que ça reste peu impliquant, ben, il n'y a pas beaucoup d'exercices possibles. Ça va jusqu'à présent, par rapport aux structures, par rapport aux exercices, par rapport à ce qu'on y fait, quand on le fait et à quelle heure, c'est clair. Alors dans la plaquette, il y a toutes les activités jusqu'à fin décembre, avec les horaires et avec les lieux, parce qu'il y a deux lieux principaux. Il y a ce lieu qui a l'avantage d'être insonorisé, donc s'il y a des émotions, on peut les exprimer librement. Et puis il y a Paris 20e, qui est souvent réservé à la découverte, parce qu'il est central, et puis c'est plus facile pour les gens qui découvrent la plupart du temps d'aller sur Paris que de venir ici. Voilà, donc il y a des pratiques qui se font indifféremment ici et là-bas. Donc j'ai adopté un code couleur, tout ce qui est en rouge sur la plaquette c'est ici, tout ce qui est en noir c'est à Paris. Et puis les horaires peuvent changer entre ici et Paris parce que la salle, le centre Iris à Paris n'est pas disponible tout le temps à 19h par exemple. Ça peut changer un petit peu par rapport aux horaires qui sont ici.
Excusez-moi, oui. Ces informations que vous les envoyez automatiquement ou pas ?
Lesquelles ?
Ça ?
Oui. Alors ça, je l'envoie sur demande. Donc si tu marques ton nom et que tu écris groupe de conscience, tu le recevras. Ouais. Sinon, c'est aussi sur mon site. Là, ça va être là dans quelques jours, parce que j'ai fait une chose rapide pour ce soir. Mais tout cet agenda quatrième trimestre, ça sera sur mon site. Pour trouver mon site, il y a deux mots à écrire sur un moteur de recherche, Tantra Avi, A-V-I. Et vous arrivez sur le site qui s'appelle le Tantra par Avi Fedida. Il y a plus que l'agenda sur mon site, il y a ma démarche. Et puis, je vais enrichir mon site avec la charte, qui pour l'instant est toute neuve, donc elle n'y sera pas encore. Donc, le site est appelé à s'enrichir dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, je vais parler un petit peu de l'énergie sexuelle. Le tantra s'intéresse à l'énergie sexuelle parce que c'est l'énergie en nous qui a besoin le plus d'être déconditionné. Il y a peu de personnes qui sont totalement libres avec leur énergie sexuelle. Peu de personnes qui sont totalement à l'aise avec la nudité, il y en a, parce que c'est très très conditionné. Depuis notre enfance, on nous dit cache ça, ne montre pas, n'y touche pas, etc. Donc, le tantra porte un autre regard que celui conditionné sur l'énergie sexuelle. Le tantra, sans vous surprendre, je dirais, le tantra porte un regard sacré sur l'énergie sexuelle. En lui reconnaissant tout le vivant qu'elle porte et son énorme potentiel de créativité. Donc, la puissance de l'énergie est reconnue parce qu'il n'y a pas de jugement, et puis elle est célébrée de l'intérieur. Ça veut dire que je ne célèbre pas l'énergie sexuelle avec un autre, l'énergie sexuelle d'un autre, je célèbre ma propre énergie sexuelle. Alors, c'est au contact d'un autre, c'est au moyen d'un autre, c'est l'autre qui appuie sur le bouton plaisir, désir, et en même temps, ce qui se passe, c'est toujours en moi que ça se passe. Donc le tantra vise à ce que je sois conscient de la puissance et de la beauté de mon énergie sexuelle en dehors de tout conditionnement social. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les conditionnements sont tenaces, hein, assez tenaces.
Est-ce que c'est la seule énergie qui nous habite ou il y a d'autres énergies ?
Non, c'est loin d'être la seule énergie. L'énergie, elle a un parcours ascensionnel dans lequel elle se transforme. L'énergie sexuelle, c'est dans le tantra, c'est dans le chakra racine. Comme son nom l'indique, c'est la racine de notre énergie. C'est par là aussi que nous créons des nouvelles vies. Donc c'est pas rien comme énergie, puisque ça, c'est le départ d'une nouvelle vie, aussi bien dans la procréation que dans la naissance. C'est important. L'énergie, au fur et à mesure qu'elle monte dans les chakras, elle va se subtiliser. Elle va devenir de plus en plus fine. C'est pour ça que le tantra dit corps, cœur, conscience. Dans le cœur, elle devient énergie d'amour. Donc l'énergie sexuelle n'est pas appelée à rester énergie sexuelle. Elle se transforme en amour dans le cœur. Donc elle peut être célébrée dans le cœur. Et lorsqu'elle monte encore, elle se transforme en méditation et en prière, dans le sens non religieux du terme. Donc on peut dire que c'est une énergie, mais qui change sans arrêt de couleur, parce qu'on a sept chakras, sept couleurs, sept tonalités d'énergie à l'intérieur de nous. Alors, Osho disait, le sexe est un début et non une fin, mais si vous ratez le début, vous raterez aussi la fin. Il faut commencer par le premier chakra, si vous voulez élever votre énergie jusqu'à la couronne. Il faut commencer par le premier barreau de l'échelle. Si vous commencez au deuxième, c'est un peu haut et vous risquez de rater la marche.
Je veux savoir quelle est la signification du troisième chakra.
Quelle est la signification du troisième chakra? Le plexus solaire, oui. Il est lié à l'image que je donne de moi-même au monde extérieur. C'est le rayonnement que j'ai dans le monde. Le rayonnement solaire, quelle trace je laisse dans ce monde. Voilà, c'est en rapport avec je suis, je suis dans ce monde, voilà, ça ou ça, c'est de moi aux autres, le troisième chakra, depuis ma vision, toujours, oui.
Mais par rapport à ce que tu viens de dire, rater la marche,
oui.
Ça veut dire quoi,
rater la marche? Rater la marche, ça veut dire que l'énergie qui vient du premier chakra, qui peut être aussi l'ancrage, qui peut être la sexualité, voilà, cette énergie-là, elle a besoin d'être reconnue, célébrée, amplifiée pour monter, pour ascensionner dans notre corps. Donc, si je ne m'occupe pas, si j'ai beaucoup de jugements sur mon énergie sexuelle, si je ne m'occupe pas de cette énergie, si je la trouve honteuse, si je la trouve sale, si, etc., alors je vais avoir du mal à, comme elle est nourrie de l'énergie sexuelle, je vais avoir du mal à incarner l'énergie dans mon deuxième chakra, parce qu'il ne va pas être nourri d'énergie. Je vais pouvoir le faire, mais d'une manière incomplète. Ce qui fait que j'aurai... c'est comme si j'avais un robinet d'énergie qui était tout en bas dans l'énergie sexuelle, et que si je le maintiens fermé ou presque, il y a un tout petit filet d'énergie qui monte. Alors que si je l'ouvre, il y a un grand flux d'énergie qui arrive. Voilà, donc Osho dit, et je suis d'accord avec ce tantra rouge, hein, qui dit, quand vous autorisez la beauté, le sacré de votre énergie sexuelle, vous la transformez en amour. Elle n'est pas destinée à rester énergie sexuelle. Mais c'est le premier barreau de l'échelle, qui en comporte sept. Donc, les trois principaux, c'est sexe, cœur, conscience, en fait. Hein. Après, les autres sont importants. Mais c'est des repères hein, dans notre échelle intérieure. Ça répond à la question ? La question, c'était, si on rate le premier barreau, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui ? En la déconditionnant, comment ouvrir ce premier barreau de l'échelle ? En enlevant les jugements, en la considérant comme belle, sacrée, naturelle. Un bébé va toucher ses organes génitaux sans aucune gêne. Et puis à 4 ans, on va lui dire « arrête ça ». Et puis à 7 ans, on va lui dire « cache ça, arrête de te promener tout nu voilà. ». Et puis peu à peu, il va trouver que ce n'est pas convenable, cette énergie-là. Il va la juger, chez lui et chez les autres. Donc nous avons, nous le faisons inconsciemment, hein, nous conditionnons nos enfants, qui ont été les parents ont été conditionnés par leurs parents, et par leurs parents, il y a une chaîne de générations qui conditionne tous. Alors, voilà, donc l'énergie sexuelle, à la base, c'est une énergie pure, naturelle, sacrée, elle a besoin d'être célébrée, hein. Elle a besoin d'être débarrassée de ses conditionnements qui l'empêchent de monter au cœur en amour. Parce que si elle n'est pas autorisée en bas, elle ne pourra jamais monter au milieu, hein, en gratitude. Et si elle n'est pas autorisée dans le cœur, ensuite, elle ne pourra pas monter dans l'espace de méditation-prière au troisième œil et à la couronne. Le but de notre énergie, c'est de s'élever et de nous procurer une expansion totale de conscience qui se passe là-haut, hein, qui se passe dans une ascension. C'est pour ça, c'est parce que cette énergie est tellement conditionnée que les groupes qui incluent cette énergie sexuelle dans les pratiques à deux ou en groupe s'appuient et s'appuieront sur la nouvelle charte et seront fortement cadré pour y inclure le respect de soi, l'écoute et le respect de l'autre. Plus l'énergie est puissante, plus il y a besoin d'écoute, plus il y a besoin de repérer l'endroit où j'ai une frustration, l'endroit où j'ai une pulsion, l'endroit qui n'est pas juste de placer là maintenant, en face de l'autre. Donc, ce qui va être prôné, et ce qui est déjà prôné, c'est une écoute active de ses limites et des limites de l'autre. Hein. Donc, bien sûr que vous êtes limité dans l'énergie sexuelle, bien sûr que vous n'êtes pas tout le temps à l'écoute. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de tantra. Hein. Et c'est pour ça que, avant chaque pratique qui inclut l'énergie sexuelle, il y aura un préliminaire qui portera l'attention sur l'écoute de l'autre, qui visera à développer l'écoute de l'autre, hein, et l'écoute de soi-même. Parce que si c'est non à l'intérieur de moi, et que je ne m'écoute pas, et que je ne dis pas le non, alors j'ouvre la porte à l'abus. Et l'abus, c'est tout sauf l'expansion de la conscience. C'est la descente, c'est la désescalade. D'accord ? Donc, une écoute active, c'est... Qu'est-ce que ça dit en moi ? Là, franchement, ça va trop vite pour moi. C'est non. Et le non est aussi bienvenu que le oui. Hein. Lorsque j'ai épuisé mon non parce que je me suis respecté totalement, le oui peut avoir toute sa valeur parce que je sais dire non. Hein. Si je sais dire non, alors je saurai aussi dire oui. Si je ne sais pas dire non, quand je dis oui, c'est ambigu. Parce que ça peut cacher un non. Okay. Donc, écoute active des limites, ça veut dire que je suis les yeux bandés ou je suis les yeux ouverts. Si je touche quelqu'un qui a une réticence, j'écoute activement cette réticence et je ne poursuis pas mon geste. Ça veut dire que je suis allé trop vite, hein, et que j'ai besoin de ralentir mon rythme et de le faire différemment.
Avis ?
Oui.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus important l'écoute active de soi que l'écoute active de l'autre. Parce que comment on peut être à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre ?
Oui.
Il me semble que c'est plus important que chacun développe l'écoute de soi.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'on n'est pas à la place de l'autre.
Voilà, la question c'était, il me semble que c'est plus important l'écoute active de soi que celle de l'autre. En vérité, tout commence par soi, hein, mais c'est parce que je m'écoute moi-même, hein, que je peux écouter l'autre. Mais si j'écoute mon oui intérieur et qu'il y a un oui qui est fort, et qu'en face il n'y a pas de oui, alors je suis obligé d'écouter que chez
si
l'autre...
Si l'autre n'est pas conscient que ça dit non à l'intérieur, c'est compliqué pour la personne de savoir ce que ressent l'autre, si l'autre ne sait même pas ce qu'il ressent.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que les deux aspects sont importants. Hein. Et c'est pour ça qu'avant chaque exercice, il y aura un exercice, il y aura un petit entraînement qui dit, qu'est-ce que ça dit maintenant ? J'écoute à l'intérieur, ça dit oui, ça dit non. Qu'est-ce que me dit l'autre ? Est-ce qu'il me dit oui avec ses gestes ou avec son énergie ou est-ce qu'il me dit non, hein? Et donc, les deux aspects de l'écoute sont importants. Mais si vous ne savez pas dire non, le non que vous pouvez arriver à dire dans un groupe de tantra peut être la meilleure chose possible pour vous à apprendre à dire. Parce que c'est clair, hein? Un homme à qui on dit non, il sait à quoi s'en tenir parce que, je vous avais dit, le yang, c'est binaire. Hein. Si on me dit non, ah bah ok, alors j'insiste pas. Hein. Si on me dit ni oui ni non, alors il y a l'espace du peut-être. Et je vais m'engouffrer dans quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Donc oui, il y a le cadre extérieur, il y a le cadre intérieur également. Oui.
J'ai l'impression que ça suppose de la part, par exemple, si c'est le cas d'un homme qui caresse ou masse une femme, dans le cadre d'un atelier, tout dépend de l'intention qu'il y met.
Évidemment, oui, oui.
Qu'il soit inconscient de son intention, s'il en a une, qui n'est pas spirituelle.
Oui, oui.
Et parfois, il n'est pas forcément conscient.
Voilà, s'il y a un manque d'écoute chez l'autre et que la personne en face n'arrive pas à dire non, alors l'autre va aller dans ses pulsions plutôt que dans ce que renvoie l'autre. C'est ça que je dis. C'est pour ça que l'écoute active est importante, c'est pour ça qu'elle sera favorisée. Tout le monde n'est pas à l'écoute, mais il y a des exercices où tu seras forcé d'être à l'écoute. Je ne m'adresse pas qu'aux hommes, hein, bien sûr. Les femmes aussi peuvent générer des abus. Il n'y a pas de généralité. Tout ce que je fais dans l'écoute devient sacré, et ça sera ça le pilier de la charte. Hein, la charte qui s'appellera In Lakesh. In Lakesh, ça veut dire... En langage maya, tu es un autre moi-même. Si je suis violent avec toi, je suis violent avec moi puisque tu es un autre moi-même. Hein? C'est une voie aussi non-duelle. C'est clair ? Donc, bien sûr que tout le monde n'est pas complètement aligné. Sinon, il n'y aurait pas de groupe de tantra. Hein? C'est pour ça aussi que le chemin, c'est développer l'écoute. Le chemin de l'approfondissement... C'est développer l'écoute et ralentir son rythme. Quand je masse à toute vitesse, je ne sens rien. Quand je masse très très lentement, j'ai beaucoup plus de sensations, voire de plaisir, que quand je masse très vite. Donc, la charte inclut ralentir son rythme, être patient, faire des gestes lents, etc. « Donc le but de l'écoute active, c'est que chacun puisse se sentir libre d'explorer sans subir de pression. Hein, que ça soit tout le temps dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Hein, ça c'est important. C'est pour ça aussi qu'on n'explore pas l'énergie sexuelle dans les premiers groupes de découverte et qu'on l'explore juste un petit peu dans les groupes d'exploration. Parce que dans les groupes de découverte, pour la majorité des personnes, c'est trop tôt. C'est simplement trop tôt. Il y a besoin de déconditionner d'autres aspects d'abord, hein, de la liberté psychologique. Répéter la question au micro. Hein. Donc, comment se rendre compte dans les groupes de tantra qu'on a dépassé la limite du oui, la limite du non, qu'on a entre guillemets abusé? Ma réponse, c'est je suis responsable de mon oui, je suis responsable de mon non. Si je ne dis pas non, là se trouve la porte de l'abus. Donc j'ai besoin d'être à l'écoute de moi-même tout le temps et d'ausculter tout le temps. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Je le sens, je le sens pas, je le sens, je le sens pas. Ça va vite, ça va, c'est bien pour moi ce rythme. Là c'est un peu rapide, je dis non. Voilà, donc toi tu te nourris du retour de l'autre. Alors ce retour il peut être avec un mot, non. Il peut être avec un geste, hein. Je mets la main et je te tiens un petit peu à distance. Il peut être avec l'énergie, tu vois que l'autre n'adhère pas à ce que tu lui proposes. Et dans ces trois cas, tu es à l'écoute. Dans ces trois cas, tu dois tenir compte du message, parfois non-verbal, que l'autre t'envoie. Alors, il est de la responsabilité de l'autre de t'envoyer un message. Hein? Sinon, l'autre a une responsabilité dans la non-communication. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça que s'écouter soi-même, c'est aussi important, voire plus important, qu'écouter l'autre. Alors, si moi, je sais très bien m'écouter moi-même, alors je vais développer activement l'écoute de l'autre. Parce que si j'écoute mon gros oui comme ça, sans du tout tenir compte du non qui ose à peine s'exprimer en face, alors, ça ne va pas être un échange respectueux. Ça va pas être un échange sacré. D'accord? C'est clair? Donc, il y avait déjà un accent important sur se respecter et respecter l'autre. Il va être amplifié hein, dans la nouvelle charte. Il va être amplifié avec... Il va faire l'objet d'exercices. Il n'y aura jamais un exercice qui fait appel à l'énergie sexuelle ou à la sensualité sans préambule d'écoute. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris du retour des personnes qui m'en ont parlé. Donc j'ai cogité un petit peu, ça va maturer encore un peu, sur cette charte in la cache. Et j'ai posé... quatre premières balises importantes. La première, c'est l'écoute attentive. La deuxième, c'est le double respect, ce dont on parle là depuis un moment, le respect de moi, le respect de l'autre. La troisième, c'est la conscience et la responsabilité de mes actes. Donc, je ne peux pas ne rien faire et ensuite me plaindre que je ne suis pas respecté. Je dois agir si je ne me sens pas respecté. Et la quatrième, c'est donner en permanence. C'est-à-dire que dans le tantra, il n'y a pas de place pour prendre. pour s'accaparer quelque chose. Il n'y a qu'une place pour donner, et donner, et donner, et toujours donner. Hein? Si je fais autre chose que donner, à ce moment-là, je sors du sacré. Ça veut dire que j'utilise l'autre comme un objet. Donc, donner en permanence, il s'avère une chose importante, c'est que quand je donne à l'autre, je me donne aussi à moi-même. Je me donne quelque chose de bon pour moi. Quand je donne à l'autre, j'ai quelque chose qui me revient naturellement par l'acte de donner. Parce que je suis programmé pour éprouver du plaisir à donner. Donc, je n'ai pas besoin de prendre pour avoir quelque chose en retour. J'ai juste besoin de donner. Faites l'expérience. Si vous donnez, 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 que vous n'attendez rien en retour, quelque chose est nourri en vous. Donc, vous recevrez par l'acte même de donner. C'est ça le secret de donner en permanence. Je vous raconte une anecdote. Il y avait un mendiant au bord de la rue qui attendait les voitures au feu rouge. Je me suis dit, et si je lui donnais 10 euros ? Et si je lui donnais une somme à laquelle il ne s'attend pas du tout ? Je dis, allez, je vais tenter l'expérience. Je lui ai donné 10 euros. Il m'a fait un sourire jusqu'aux oreilles. Il a arrêté de mendier pour les autres voitures. Il m'a regardé, il m'a dit au revoir. Il était tellement content. Et moi, j'étais tellement plein de gratitude pour ce retour qui a été fait sans que je le demande. Voilà. Quand vous donnez, vous ouvrez la porte à recevoir en retour. Mais ce n'est pas vous qui prenez. C'est vous recevez. Par l'acte de donner, vous recevez. Je le détaille un peu plus dans la charte. Mais c'est aussi une vision non-duelle. Hein? Moi, je suis l'autre, et l'autre est moi. Et quand je donne à l'autre, c'est normal que je me donne à moi-même, puisque l'autre est moi aussi. Comme l'autre est sacré, si j'ai un regard sacré sur l'autre, jamais je vais penser à utiliser, à manipuler une personne sacrée. Si j'ai un regard sacré, je ne pourrais pas faire ça. Donc, la source est dans mon regard, hein? Comment je regarde l'autre. Et ça, c'est la même chose que l'écoute, hein, l'écoute sacrée de l'autre. Voilà, si je prends quelque chose à l'autre, si j'utilise l'autre d'une quelconque manière, c'est une manière de perdre le message qu'à cet endroit-là, j'ai besoin de recevoir de l'amour de l'autre ou de moi-même. Hein. Si je prends quelque chose, c'est parce que je ne suis pas assez nourri à cet endroit-là. Mais c'est en donnant que je vais le recevoir. C'est un peu compliqué, parce que ça part du fait que nous sommes un. Et que quand je donne de l'amour à l'autre, je reçois de l'amour. Mais si je prends, je ne reçois rien. Si je prends, je ne fais que dégrader quelque chose. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de conscience.
Quand je me rends compte que j'ai pris à l'autre, est-ce que je peux corriger ça?
Oui.
Dans l'exercice, comment je peux le faire?
Oui.
Demander pardon ou me dire que j'étais pris.
Oui, c'est ça.
Là, j'étais possédé, là, j'étais exploité.
Voilà, quand je répète la question, quand j'ai pris à l'autre, y a-t-il une manière de remettre de la conscience ensuite ou de demander pardon? Je dis oui, la conscience n'est pas dans le temps. Ça veut dire que tu peux corriger une erreur une minute après, 10 minutes après, une heure après, un jour après, un an après, 5 ans après, 10 ans après, ou même après que la personne soit décédée. Parce que ce que tu fais en conscience corrige la conscience globale de l'humanité, puisque tu fais partie d'un ensemble plus global. Donc, la règle, c'est aussitôt que je m'en aperçois. Hein? Ah, là, j'ai dérapé, désolé. Je t'ai dit ça, ou j'ai fait ça, j'avais pas conscience que c'était pas juste à ce moment-là, je te demande pardon, je vais essayer d'être plus attentif par la suite. Hein? Quand tu fais ça, tu remontes à la source, et tu réécris l'histoire. En fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'abus, ça veut dire que tu as la capacité, comme quand tu écris un texte avec une faute d'orthographe, tu relis, tu as la capacité de corriger les fautes d'orthographe et de produire un texte qui est juste en orthographe. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais c'est le mieux que tu puisses faire lorsque tu te rends compte que tu as commis une erreur. Et je rappelle qu'une erreur n'est pas une faute. Hein. Une erreur, C'est juste quelque chose que je peux corriger. Une faute, je dis j'ai mal fait. Hein, c'est un jugement sur ce que j'ai fait, une faute. Voilà.
Est-ce que prendre, ça peut vouloir dire qu'on se rend compte que l'autre nous a donné?
Est-ce que prendre, ça peut vouloir dire se rendre compte que l'autre nous a donné? Non, non. Prendre, c'est un acte volontaire d'utiliser l'autre comme un objet. C'est comme ça que j'utilise, moi, ce mot « prendre ». Hein, dans le livre sur la sexualité sacrée de Barry Long, qui s'appelle « Faire l'amour de manière divine », qui est un livre que je vous recommande chaudement, il dit « L'homme donne, donne et donne, il ne prend rien ». C'est sa manière de se nourrir en énergie que de donner. Donc, quand tu prends, ça veut dire que tu ne consultes pas l'autre. Ça veut dire que tu imposes à l'autre le fait que tu prennes l'énergie qui est là, ou tu prennes possession de son corps, ou de son énergie, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, dans le tantra, c'est donner, donner, donner. Hein, pour recevoir, je donne. Mais on n'utilise pas le mot prendre, parce qu'il n'y a rien à prendre. Il y a tout à recevoir. Tu vas recevoir quand tu donnes. C'est une excellente question. D'autres questions? Après, on va faire une pause, hein, après ces questions-là.
J'ai une question. Si on ne se sent pas prêt à donner dans l'absolu, on pourrait, dans une structure, une proposition, pas forcément s'isoler du groupe, mais ne participer, mais tout seul plutôt.
Alors, je répète la question.
Pardon. Ce n'est pas une vraie question, mais c'est une question aussi. Est-ce que c'est possible dans tes ateliers? Moi, ça m'est arrivé une fois, il n'y avait pas la parité sur, pas ici, hein, sur un atelier de tantra, et j'ai accepté de faire l'exercice avec une femme, et pourquoi pas, sauf que je n'avais pas envie de le faire. Et j'ai dit oui, par convenance, pour moi, pour l'animateur, pour la personne qui était en face de moi toute seule aussi. Et je l'ai bien sûr mal vécu, et elle l'a senti, et en fait c'était une catastrophe. Il aurait mieux valu que je m'isole, que je sois, et qu'elle le fasse aussi de son côté, ou non, c'était plus mon histoire de toute façon.
Oui.
Et ça peut arriver.
Alors je répète juste la question de ce que je me rappelle. Si dans un groupe de tantra, je ne me sens pas capable de donner, est-ce que je fais quand même l'exercice, ou est-ce que je m'isole? Alors, si tu ne sens pas l'énergie du don, tu peux sentir de recevoir quelque chose. Hein. Tu peux nourrir ton énergie à l'intérieur en recevant quelque chose et en étant à l'écoute de est-ce que ce que tu reçois est bon pour toi.
Mais qui est-ce que je le reçois de moi-même dans ce cas-là? Je ne vais pas le prendre à l'autre si je n'ai pas envie de son énergie, si je n'ai pas envie de partager.
Voilà, je ne parle plus de prendre dans ce cas-là. Dans ce cas-là, recevoir, ce n'est pas prendre. Hein? C'est l'autre te donne quelque chose. Et toi, si tu es ouvert, tu le reçois. Et si tu es fermé, tu ne le reçois pas. Hein? Donc, tu peux te nourrir en recevant sans rien donner. C'est ce qu'on dit dans le tantra, soyez égoïstement positif. C'est-à-dire que je me nourris de tout ce qui est bon pour moi, jusqu'à ce que la coupe déborde, qu'ensuite... les autres s'en servent parce que ça déborde. Hein. Tout ce que je diffuse en moi se nourrit les autres. Donc, peut-être que tu ne sens pas de donner. Dans ce cas, tu te mets en réceptivité et à l'écoute de toi-même. Et tu regardes si tu peux recevoir des choses qui sont nourrissantes pour toi. Et tu nourris jusqu'à ce que tu te sentes capable de redistribuer ce que tu as reçu. Après, des convenances personnelles, ce que tu as envie de donner à une femme ou à un homme, ça c'est plus des choix personnels, parce que tu peux donner de l'amour ou de l'attention à n'importe qui, à un chien, à un chat, à une femme, peu importe, il n'y a pas de limite. Hein. Après, ce qu'un homme donne à une femme, il y a une coloration d'énergie, ce qu'une femme donne à un homme, il y a une autre coloration d'énergie qu'on peut rechercher. Mais on peut très bien travailler entre femmes, on peut très bien travailler entre hommes, dans certains exercices, par exemple, moi je réunis les hommes entre eux et les femmes entre elles pour partager sur un sujet qui est bien propre aux hommes, hein, ou propre aux femmes, ou quelle est la vision des hommes sur cette question-là. Et là, j'ai mes frères autour de moi qui partagent leur vision. Et ça a un sens, hein, de ne pas donner seulement au sexe opposé. Ça répond à la question ?
Oui, je reste quand même avec un doute, parce que ce n'est pas dans le partage d'un groupe le problème, c'est quand on est dans une structure, on est en dualité, et où, effectivement, on ne se sent pas partie prenante dans cette, l'autre personne, tout simplement parce qu'on n'a pas choisi et on n'a pas voulu. Moi, je ne veux pas me précipiter tout de suite sur les personnes.
Oui.
Et en même temps, parfois, on peut accepter par défaut. Et là, je m'en voudrais beaucoup plus à moi-même en me disant pourquoi je n'ai pas dit non.
Voilà,
c'est
alors la question, c'est on peut accepter par défaut, lorsqu'il y a des groupes en parité, d'être avec quelqu'un alors qu'on ne l'a pas vraiment choisi. Ma réponse à moi, ça serait... augmente ton volume d'écoute au maximum en acceptant de travailler avec cette personne et regarde si ce que tu reçois est bon, parce que sinon ça peut rester seulement dans le mental, hein. Donc dès la première seconde tu vas savoir si ce que tu reçois est bon pour toi ou si c'est pas bon, hein, mais c'est le corps qui va le décider, ça sera pas un jugement. Et si c'est pas bon, la règle de mes groupes de tantra, c'est que tu peux t'extraire d'un exercice à tout moment en disant « cela ne me convient pas de cette manière-là, hein. ». Et il y a un coin bleu ou un coin fontaine où on reste dans la pièce, mais on ne participe pas, on reste dans l'énergie du groupe, mais on ne participe pas à l'exercice. C'est plus clair, là ?
J'ai répondu avec le mental, ok.
D'accord.
Merci.
Super.
Est-ce que dans ce que tu proposes aussi des massages, du toucher tantrique ?
Alors, je propose du massage de temps en temps, mais le massage tantrique, de la manière dont il est proposé dans notre société, j'ai tendance à me méfier de l'association de ces deux termes, massage tantrique, parce que c'est très souvent... J'essaye de ne pas dire de généralité, mais c'est très souvent un repère pour un défoulement de pulsions et de désirs sexuels inassouvis. J'ai des personnes qui m'appellent alors que j'ai un agenda où il y a écrit Tantra Conscience. Ils me disent « je voudrais m'inscrire à vos groupes de massage ». C'est donc qu'il y a une ambiguïté totale dans leur esprit qui dit que Tantra égale massage. Et Tantra, pour moi, c'est tout sauf seulement le massage. Si c'est un massage en conscience, alors ce sera un massage tantrique dans le respect et le sacré. Mais si c'est un massage pour se défouler ou pour avoir des buts sexuels, ben c'est tout l'inverse. Ce sera une dégradation de la conscience. Donc, pour répondre à la question... les gens qui ne cherchent que du massage tantrique, je leur dis d'aller voir ailleurs, hein. Et les gens qui participent à mes groupes, de temps en temps, je propose une structure de massage où il y a de l'écoute et du sacré. Mais ce n'est pas la règle, hein. Je ne fais pas seulement des groupes de massage tantrique où il n'y en a pas dans tous mes groupes. Donc, voilà, parce que c'est une porte pour beaucoup d'abus, hein, de mon point de vue. Et donc, je ne voudrais pas entrer dans ce système. Après, il y a des enseignants tantra qui ont une très belle conscience et qui le font d'une manière très, très, très juste, hein. Et donc, c'est un choix personnel pour moi, hein. C'est juste ça. Pour me concentrer davantage sur la conscience. Autre chose à dire ? On va donc faire une pause.